Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire trois textes de base pour la prédication. Le premier, dans Colossiens. Je dois vous avouer que c'est un de mes passages préférés. Donc nous allons lire ce texte, Colossiens 2, verset 10. Je vais lire le verset 9 qui va avec, qui parle de Jésus-Christ. Colossiens 2, 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Nous allons maintenant dans un deuxième passage, dans Matthieu 6. Vrai, c'est des passages très connus aujourd'hui. Matthieu 6, versets 33 à 34. Peut-être que vous vous souvenez des versets 24 à 34 qu'on avait une fois appris par cœur. Et là, c'est la fin. Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et le dernier texte, nous tournons dans le livre des psaumes. De nouveau un psaume bien connu que beaucoup de gens aiment, c'est le psaume 37. Et nous allons lire les six premiers versets. Psaume 37, verset 1. De David. Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal. N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Voilà pour les textes de la parole de Dieu. Sans fondement, rien ne tient. Il n'est pas possible de construire quelque chose qui tienne sans fondement. On ne pourrait même pas marcher, d'ailleurs, si on n'avait pas des endroits qui étaient solides sur lesquels on peut s'appuyer. Eh bien, nous avons besoin aussi de fondements pour lire et comprendre l'enseignement biblique. Nous avons besoin du fondement de la compréhension que donne le Saint-Esprit ce matin. Sinon, c'est comme si nous cherchions à marcher en l'air. Ça ne marche pas. On a besoin de l'œuvre de l'Esprit en nous. Aujourd'hui, nous continuons la série sur le célibat, qui concerne directement toute personne qui n'a pas de conjoint actuellement ou indirectement, tout le monde, parce que nous sommes tous aux côtés de célibataires. Alors, pour plus de précisions concernant qui sont les célibataires, vous pouvez réécouter les deux premières prédications, je ne vais pas revenir là-dessus maintenant. Dans cette série sur le célibat, prévue en quatre parties, on en a déjà vu deux. La première, c'était le célibat dans l'Ancien Testament, où nous avons vu pourquoi l'Ancien Testament ne parle pas beaucoup des célibataires, parce que l'Ancien Testament est centré sur la venue de la descendance, le Messie Jésus-Christ qui est maintenant arrivé. Lors de la deuxième prédication, nous avons parlé du célibat dans le Nouveau Testament. Là, nous avons vu que le célibat est un engagement et que c'est une grâce ou un don pour le temps où nous sommes seuls, comme le mariage est une grâce ou un don pour le temps où nous sommes en couple. Troisièmement, le célibat avec des fondements de vie. C'est ce que nous verrons aujourd'hui, où nous verrons des sujets fondamentaux pour bien vivre le célibat. Et la prochaine fois, nous verrons pour terminer le célibat avec des défis de vie, où là nous parlerons des défis du célibat. Aujourd'hui, nous verrons particulièrement trois fondements qui sont bien entendu importants pour toute situation matrimoniale, mais que nous allons appliquer particulièrement aux personnes vivant seules ou n'étant pas encore mariées. Or, tous les fondements que nous allons voir sont basés, appuyés et découlent de l'évangile de Jésus-Christ. Tous les fondements qu'on va voir sont basés, appuyés et découlent de l'évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne le sens à la vie. C'est Jésus-Christ qui donne le sens à la vie. Et ce sera notre premier point, le sens de la vie. C'est Jésus-Christ qui nous fait passer dans son royaume. Ce sera notre deuxième fondement, le royaume pour lequel nous vivons. Et c'est Jésus-Christ qui est le lien dans nos alliances qui le glorifie. Et ce sera notre troisième fondement, l'ouverture à la relation. Alors sans l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous ne pourrions pas avoir un sens de la vie stable, sûr, qui nous tire toujours en avant. Mais où cherchons-nous le sens de la vie? Dans quelle direction la personne seule regarde-t-elle pour trouver un sens à sa vie? Alors plongeons dans notre premier point, qui est un fondement pour bien vivre le célibat. Donc le sens de la vie. Or, dans un monde en quête d'amour, beaucoup disent que seule une relation romantique leur donnera la force de vivre et les feront vivre. Ils vont d'une relation épuisante à l'autre, car c'est la seule chose qui leur donne le sentiment d'être vraiment vivant. Ces personnes sont tellement dépendantes de leur relation amoureuse, même les plus malsaines, que leur vie n'a pas de sens sans elles. Pourquoi cette recherche? Pourquoi être prêt à endurer même la maltraitance dans les relations? Parce que ces personnes en sont arrivées à attendre d'un amoureux ou d'une amoureuse l'approbation et l'acceptation, le sens de la vie que seul Dieu peut donner. Ils sont devenus esclaves de l'amour sentimental. Et lorsque quelqu'un est esclave, il a un maître. Et ce maître, si ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Voici ce que dit Ernest Becker, cité par Keller dans son très bon livre « Les idoles du cœur ». Dans le chapitre en fait, où il décrit l'idole de l'amour, illustrée dans la Bible par Jacob, qui était tellement fou amoureux qu'il s'est fait rouler par son beau-père. Je cite. « Une grande partie de la frustration de l'homme moderne vient du fait qu'il cherche une solution à ses problèmes dans les relations amoureuses. Cette solution est vouée à l'échec. Aucune relation humaine ne peut porter le poids de la divinité. Nous pouvons idéaliser l'autre, le mettre sur un piédestal, mais il finira toujours par refléter la pourriture terrestre et l'imperfection. Après tout, que cherchons-nous lorsque nous élevons notre partenaire en rang de Dieu ? Nous voulons être quittes de nos fautes, de cette sensation de vide. Nous cherchons à nous justifier, nous voulons être sûrs que notre existence n'a pas été vaine. Nous voulons la rédemption, rien de moins. Il va sans dire qu'un partenaire humain n'a pas le pouvoir de nous la donner. Fin de citation. Cela ne signifie pas qu'une personne mariée ne doit pas aimer son conjoint, mais qu'il doit aimer Dieu plus que son conjoint. Et aimer Dieu par-dessus tout, eh bien le célibataire peut aussi le faire. Trouver un sens à la vie, ce n'est pas idolâtrer une relation inexistante. Là, je parle aux célibataires qui aspirent à avoir une relation. Trouver un sens à la vie, ce n'est pas idolâtrer une relation inexistante, c'est adorer, glorifier et trouver son plaisir en celui qui est la source de l'amour. C'est adorer, glorifier, trouver son plaisir en celui qui est la source de l'amour. J'aimerais souligner encore quelques éléments importants en ce qui concerne le sens de la vie pour un célibataire chrétien. Et là, c'est un élément fondamental maintenant, enfin, c'est plein d'éléments fondamentaux, disons, mais là, c'est un élément vraiment... Si vous devez retenir quelque chose, ça, c'est un élément à retenir. Un célibataire n'est pas incomplet. Un célibataire n'est pas incomplet. Pas besoin d'avoir un conjoint, des enfants ou même des petits-enfants. Non, il est dit dans Colossiens 2, 10, j'aime ce verset, je vous l'ai dit, « Vous avez tout pleinement en Christ. » Tout pleinement en Christ. Un célibataire n'est pas incomplet, il a tout pleinement en Christ. D'ailleurs, vous le savez, je l'ai déjà dit, mais je continue à le dire, c'est une clé pour moi, pour accepter le fait qu'avec mon épouse, nous n'aurons jamais d'enfants. Mais nous avons tout pleinement en Christ. Deuxièmement, ce n'est pas le mariage qui donne un sens à la vie, ni les enfants d'ailleurs. Sinon, ils n'ont plus leur juste place, le mariage et les enfants. Ils deviennent des idoles, en fait. Ce n'est d'ailleurs pas le mariage qui donne le bonheur, même s'il est possible d'avoir du bonheur dans le mariage, comme dans le célibat. Ce n'est pas le mariage qui donne un sens à la vie, mais Christ. Alors vous pouvez relire Philippiens 1, 21. Un autre élément qu'on a déjà vu ensemble dans ces prédications. Nous ne devons pas considérer le célibat comme une malédiction, une punition, ni comme un signe que quelque chose ne va pas chez le célibataire. On en a déjà parlé dans cette série. Jésus-Christ a pris sur lui toute malédiction et il n'en reste aucune sur celui qui est en Christ. Jésus-Christ a pris sur lui toute malédiction et il n'en reste aucune pour celui qui est en Christ. Galates 3:13. Et ce n'est pas un péché de rester célibataire. Alors, si c'est le désir de faire ce que vous voulez, de ne pas prendre de responsabilité qui vous pousse à rester célibataire, repentez-vous de votre égoïsme. Si c'est la peur qui pousse à rester célibataire, repentez-vous de votre incrédulité envers le Dieu Tout-Puissant. Si ce sont les attentes trop élevées qui poussent à rester célibataire, repentez-vous de votre orgueil. Si c'est ne pas faire ce que les autres vous encouragent à vivre, par réaction, qui vous pousse à rester célibataire, ou dit autrement le non-conformisme, eh bien repentez-vous de votre idole du regard des autres. Mais vous avez été sûrement attentif. Aucune fois je n'ai dit de se repentir du célibat. Le célibat n'est pas un péché. Et il peut être vécu dans l'épanouissement. Il peut être vécu dans un esprit de service, dans la confiance, dans la bienveillance et la grâce, dans la paix libre du regard des autres. Et vous savez quoi ? Jésus-Christ, l'homme le plus accompli, est resté célibataire dans son pèlerinage terrestre. Il n'a jamais péché. Jésus-Christ, l'homme le plus accompli, est resté célibataire dans son pèlerinage terrestre et il n'a jamais péché, pour lire 1 Pierre 2:22 par exemple. Alors, je vous le disais, toute la vie chrétienne découle de Christ et le sens de la vie de célibataire découle de Jésus-Christ. Ce n'est pas une situation matrimoniale qui donne un sens à la vie, c'est Jésus-Christ. C'est aussi le royaume pour lequel nous vivons, qui dirige nos actions, qui indique notre héritage, nos ressources, nos buts et qui définit qui est notre souverain. On va justement parler dans le deuxième point maintenant, qui est intitulé « Le royaume pour lequel nous vivons ». Nous avons lu avant Matthieu 6, 33 et 34. On le cite parfois. Il est écrit « Cherchez premièrement son royaume ». Et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Son royaume. J'ai comme une question à poser à chacun. Je me la pose aussi, hein. On la pose tous ensemble. Pour quel royaume travaillez-vous ? Pour quel roi œuvrez-vous et vous battez-vous ? On va essayer de réfléchir, hein, pratiquement. Vous avez tous reçu des dons. Tous. Connaissez-vous vos dons ? Alors, si vous ne les connaissez pas, n'attendez pas pour le célibataire d'être marié ou d'être plus âgé pour les connaître. C'est maintenant le bon moment de les découvrir. Et c'est en testant différents engagements que l'on peut découvrir ses dons. Alors, nous allons d'abord faire des choses qui nous attirent, évidemment, et ensuite peut-être faire des choses qui nous attirent pas au premier abord. Et vous pourriez peut-être être étonné de découvrir une capacité, une joie de servir où vous n'auriez jamais pensé. Je l'ai vécu dans des camps de formation pour des jeunes où un jeune disait « Moi, les enfants, c'est vraiment pas mon truc. » J'ai dit « Mais il n'y a pas de problème. » Mais on faisait quelque chose avec les enfants. J'ai dit « Il n'y a pas de problème. Tu nous accompagnes et puis simplement, ben, tu regardes ce que tu peux faire pour aider, accompagner tout simplement. » À la fin du cours, il m'a dit « Je ne savais pas que c'était comme ça avec les enfants. C'est trop bien. Je veux travailler avec eux. » n'avait jamais vu avant. Il n'avait même pas envie avant. Parfois, il faut simplement tester. Ou un autre disait, moi, les enfants, c'est mon truc. C'était dans le même cours, d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est mon truc. Je dis, OK, pas de problème, vas-y. À la fin du cours, il me dit, j'aime vraiment les enfants, mais je n'arrive pas à travailler avec. Donc, moi, je veux faire des choses qui vont aider ceux qui travaillent avec. Donc, ça, je me réjouis, parce que je les aime, mais je n'arrive pas à travailler avec. Ben voilà, on découvre ses dons. Hein. Moi, j'aime bien dans les camps avec les moniteurs hein, à leur dire, mais découvrez vos dons, allez-y à fond. Vous aimez faire quelque chose, allez-y. N'ayez pas peur, ne dites pas, ouais, mais les autres, ils vont penser que. Non, allez-y. Et puis pour celui qui a un côté qui n'a pas le don d'animation, puis qui voit quelqu'un qui a le don d'animation, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, je me réjouis Seigneur qu'il l'aille, et je veux l'encourager. Pourquoi ne pas stimuler les personnes autour de vous en les encourageant à utiliser leurs dons? Dites-leur ce que vous voyez, encouragez-les à essayer. Et si quelqu'un vous propose quelque chose et que vous ne pensez pas encore pouvoir le faire, ou pas de souci, il ne faut pas se forcer non plus, ce n'est pas encore le moment. On fait autre chose. Mais il n'y a pas besoin d'attendre d'être en couple ou de recevoir une révélation particulière pour découvrir ses dons. 1 Pierre 4, 10 et 11 concernent tout le monde. Dans ce texte, il est dit, « Puisque chacun, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon attendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu lui a donnée. » Afin que, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Imaginez un petit instant que tous les célibataires, et les autres, imaginez que tous les célibataires mettent leurs dons au service de Dieu, premièrement dans leur famille spirituelle, qu'est l'église locale, et aussi dans toutes sortes d'œuvres qui glorifient Dieu. Imaginez. Imaginez tous ces dons qui dorment, mis au service du feu d'artifice devant l'Éternel. C'est juste magnifique. Quelle joie, quelle reconnaissance, quel encouragement, quelle illumination du monde. Si tout le monde mettait ses dons au service de Dieu, il n'y aurait plus de manque dans l'Église. Si tout le monde mettait ses dons au service de Dieu, il n'y aurait plus de manque dans l'Église, car Dieu donne les dons. Et quand ils sont utilisés pour un autre royaume, ils sont enterrés et il y a un manque. Mais Dieu donne les dons qui sont nécessaires pour une église. Et donc, si chacun utilise les dons qu'il a reçus avec les capacités qu'il a, hein, pas en dehors des capacités, etc., je parle des dons qu'il a avec les capacités qu'il a, Dieu les donne. Et quand ils sont utilisés pour un autre royaume ou qu'ils sont enterrés, il y a un manque. On est dans le point pour quel royaume vis-tu, hein? La personne seule a une grande liberté pour tester ses dons. Le célibataire a des avantages et des inconvénients. Et j'aime bien dire par rapport à cela une phrase qui peut-être peut vous marquer, qui en tout cas moi me marque, où il est dit « Mettez les avantages du célibat au service de Dieu et les inconvénients dans la main de Dieu. » Mettez les avantages du célibat au service de Dieu et les inconvénients dans la main de Dieu. Ça peut aussi être pour les gens mariés hein, d'ailleurs. Les avantages seront vécus en faveur du royaume pour lequel vous vivez. Et vous chercherez dans ce royaume les ressources nécessaires pour les désavantages. On va réfléchir à quelques avantages d'un célibataire. Or, les mariés, ils connaissent les avantages des célibataires, évidemment. Donc, ils vont dire, ouais, mais ils sont flexibles. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de flexibilité. Ils n'ont pas le souci de plaire en permanence au conjoint, en plus de plaire à Dieu. Ils n'ont pas peur de faire souffrir un conjoint. S'ils étaient persécutés ou s'ils ont un travail acharné à faire, ou etc., ils n'ont pas cette peur de faire souffrir quelqu'un d'autre. Ils ont moins de charges financières. Ils sont épargnés d'afflictions de la chair, comme le dit Paul, dues aux soucis pour l'autre, par exemple. La disponibilité que vous avez en tant que célibataire est beaucoup plus grande que quand on est marié. Et encore moins quand il y a des enfants. Parce que les jours, ça c'est un scoop, hein. Les jours ont 24 heures pour tout le monde. Que ce soit pour les célibataires, les mariés et ceux qui ont des enfants. Et un des grands avantages du célibataire, c'est qu'il peut aussi avoir cette attitude intérieure et cette vie d'être mis à part pour Dieu tout spécialement. Alors là, la question que je pose aux célibataires, mais ceux qui sont mariés, vous pouvez aussi le transposer. Si tu es célibataire, au service de quel royaume mets-tu tes avantages? Certains me diront, ouais, mais attends, je ne peux pas tout donner à Dieu quand même. Je veux aussi profiter de la vie qu'il m'a donnée, non? Je vous laisse juste réfléchir à cette phrase. Je ne peux pas tout donner à Dieu. Vraiment? Et lui, qu'a-t-il donné? Qu'est-ce que profiter de la vie selon Dieu? Sachant que c'est quand même lui le créateur et qui sait ce qui peut nous épanouir vraiment. Alors si le célibataire est encouragé à mettre ses avantages au service de Dieu, il est encouragé aussi à mettre ses inconvénients dans la main de Dieu. Puis on va voir quelques désavantages aussi pour le célibataire ou celui qui vit seul. Il n'a pas de vis-à-vis qui est attaché à lui. Mais Dieu est là. Et je vous encourage à ne pas hésiter, même à lui parler à haute voix quand vous êtes à la maison, dans votre voiture. Vous arrivez à la maison, vous dites « Bonsoir Seigneur, j'ai passé une journée vraiment difficile. » Ou bien « J'ai fait une super découverte aujourd'hui. » Ou bien encore « Cette glace que je viens de manger était juste tellement bonne. » Et il est là, il écoute, hein. Entretenir la relation avec la personne la plus proche qui est Dieu est importante. Et c'est aussi vrai pour les couples. Par contre, pour un vis-à-vis sur son pèlerinage terrestre, les couples sont obligés de soigner leur relation, alors que le célibataire n'a pas d'obligation d'alliance. Alors, je ne peux pas le développer ici, mais je le ferai la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, je vais vous parler des amitiés. C'est un élément vraiment important dans ce domaine-là. Mais ça, là, c'est la prochaine fois. Un deuxième désavantage, c'est que le célibataire est seul pour prendre et assumer les décisions. Cela pousse donc à chercher des conseils auprès de Dieu. Et heureusement, Dieu a inventé l'Église, cette famille spirituelle si importante pour les célibataires, les personnes vivant seules. Mais vous savez, il y a d'autres désavantages. Peut-être que vous n'y avez pas pensé, mais le célibataire, celui qui vit seul, il est seul le dimanche soir. C'est pas facile. Mais pourquoi pas prendre ce temps pour lire un bon livre, téléphoner à un ami, écouter de la musique qui nous fait adorer Dieu, ou inviter quelqu'un pour prendre un repas tout simple. Vous savez, pour quelqu'un qui vit seul, alors moi ça m'est arrivé mais pas longtemps, mais c'est assez difficile de se motiver à se faire à manger en fait, tout seul. C'est un désavantage. Or, pourquoi pas demander à des amis ce qu'ils ont mangé la semaine dernière pour avoir des idées, par exemple. Ou parfois d'inviter, ou proposer d'aller manger ensemble. Ou peut-être même, et ça je trouverais génial dans l'église si on était capable de faire ça, de dire « Écoute, j'ai de la peine à être seul ce soir, est-ce que je peux venir chez vous ?» Ça serait juste magnifique. Et que ceux à qui on demande puissent être capables de dire « Ben aujourd'hui ça ne va pas, mais on fixe une autre date et ça serait génial. » Ou bien, ouais, super, aujourd'hui. Vous savez, pour un célibataire, c'est pas évident d'être avec des amis qui sont parents et qui ne parlent que de leurs enfants. Alors, pour le célibataire, il peut se souvenir qu'il est enfant de Dieu et ainsi déjà suivre la discussion et avoir des éléments qui sont en lien avec ce sujet-là. Mais il peut aussi être une aide pour les parents afin que les enfants ne deviennent pas leurs idoles et les aider à parler d'autres choses. Il y a encore une autre chose qui est très forte pour quelqu'un qui est célibataire. Qui prendra soin de moi lorsque je serai malade ou plus âgé? Particulièrement pour ceux qui n'ont pas eu d'enfants, qui ne sont pas veufs ou veuves. Eh bien là, nous voulons nous confier en Dieu qui aide les autres, qui aide chacun. Et nous voulons le faire en aidant les autres. Paul, quand il parle à Timothée, je suis en train maintenant de bosser un peu le livre de Timothée parce qu'on va bientôt y arriver ensemble dessus. Quand il parle des veuves de qui on prend soin, il leur dit « Mais durant toute votre vie, avant d'être veuve, vous vous donnez de la peine, vous prenez soin des autres. » Et c'est ainsi que Dieu va aussi prendre soin ensuite. On pourrait continuer la liste. Et puis, moi, je vous encourage à le faire à table à midi. On peut parler des avantages, des inconvénients, comment est-ce qu'on fait face, etc. Et toujours avec cette question en tête, pour quel royaume voulons-nous vivre les avantages et dans quel royaume allons-nous chercher notre soutien pour les inconvénients ? Donc ça, c'est la question. Maintenant, ici, si tu es célibataire, dans quel royaume cherches-tu ton soutien pour tes désavantages ? Vous savez, dans Matthieu 6, 33, qu'on a lu tout à l'heure, c'est déjà tout un sermon. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Et nous arrivons à notre troisième point qui indique une conséquence de l'évangile qui est l'ouverture à la relation. Alors, un célibataire ne sait pas s'il se mettra en couple dans l'avenir. Et même si parfois il est vrai, la vie est avancée et cette perspective n'est plus envisagée de manière claire et consciente. Mais je ne peux que encourager à ne pas se focaliser sur une relation désirée qui consomme toutes les forces. Et d'un autre côté, j'encourage celui qui ne veut pas de relation de ne pas se focaliser sur la fermeture à la relation. Il est important de trouver un sens à la vie en Dieu et de consciemment mettre ses forces pour le royaume de Dieu, comme nous l'avons vu dans les premiers points. Nous allons maintenant donc réfléchir à la possibilité de rencontrer quelqu'un que certains vivront et d'autres pas, mais que tous sont appelés à avoir une idée claire si cela arrive. C'est notre troisième point, l'ouverture à la relation. On a lu le psaume 37. Moi, je l'ai quand même déjà souvent entendu de la part de célibataires qui aimeraient se marier et qui prennent le verset 4. Vous avez déjà vu le verset 4 du psaume 37 ? Il est dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vous avez déjà entendu ça ? Et voilà que mon cœur est plein de désir de trouver un conjoint. En fait, je fais dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes rêves de mon futur mari ou ma future épouse, mes délices, et je souhaite qu'il me donne tout ce que mon cœur désire. Mais ce n'est pas ce que le psaume 37,4 dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'est pas dit « Fais d'un futur conjoint tes délices et Dieu te donnera ce que ton cœur désire ». Non, il est dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Fais de l'Éternel tes délices. Les délices dans le cœur ne sont pas remplies d'un désir d'avoir un conjoint, mais d'être proche de Dieu. Aimer ce qu'il aime, désirer ce qu'il désire. Le cœur rempli de délices de l'Éternel aura des désirs auxquels il répondra. En saisissant « Fais de l'Éternel tes délices », il n'y a ni focalisation sur le désir d'absolument rencontrer quelqu'un ou le désir d'absolument rester seul pour des raisons égoïstes dans les deux cas. En saisissant « Fais de l'Éternel tes délices », il n'y a ni focalisation sur le désir d'ardemment rencontrer quelqu'un ou le désir d'absolument rester seul pour des raisons égoïstes dans les deux cas. La focalisation est sur l'Éternel. Ainsi, le temps seul est vécu en lien avec l'Éternel. Et s'il y a une rencontre pour une alliance de vie, c'est aussi avec l'Éternel. Ainsi, nous ne cherchons plus à imposer à Dieu notre façon de voir. La rencontre ne doit pas devenir un objectif prioritaire, mais une possibilité bienvenue dans le désir de trouver toute sa joie en Dieu et dans les bienfaits et les responsabilités qu'il juge bon de nous donner. Nous allons maintenant trois remarques importantes concernant la rencontre, si cela arrive. Premièrement, le cadre relationnel. Paul est très clair en ce qui concerne le cadre relationnel en 1 Corinthiens 7, 39. Donc Paul est très clair en ce qui concerne le cadre relationnel dans 1 Corinthiens 7, 39. Il dit aux veuves qui sont d'un nouveau célibataire, « Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » C'est le cadre relationnel, dans le Seigneur. Pas besoin d'une grande connaissance théologique pour comprendre ce que cela veut dire. Dans 1 Corinthiens 6, 14, il est dit « Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» En fait, Paul reprend ici tout l'enseignement de l'Éternel envers son peuple lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan. aucune alliance avec des personnes idolâtres. Ce n'est pas gentil ou méchant. Hein. Ce n'est pas avec des personnes gentilles ou avec des personnes méchantes. Des personnes gentilles hein, qui sont idolâtres. Non. Aucune alliance avec une personne idolâtre. Vous pouvez relire les juges, l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et tout ce que les prophètes disent à ce propos pour connaître le désastre spirituel d'un cadre relationnel entre un enfant de Dieu et un enfant de perdition. Le cadre relationnel donné par Dieu dans le Seigneur ayant comme modèle Christ et son Église. C'est ça. Le cadre relationnel donné par Dieu est dans le Seigneur, ayant comme modèle Christ et son Église. Jésus ne peut pas s'unir au monde, mais uniquement à son Église. Toute autre union de Christ qu'avec son Église serait de l'adultère. Si nous sommes en Christ, une union avec une personne qui n'est pas en Christ est un adultère spirituel. Alors, petite parenthèse pour ceux qui deviennent chrétiens après s'être mariés, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament où la séparation était obligatoire. Dans le Nouveau Testament, Dieu règle cela dans 1 Corinthiens 7, 10 à 16, où celui qui est dans la foi va rester avec celui qui n'est pas dans la foi tant que l'autre le veut. Mais ça, je vous laisse reprendre 1 Corinthiens 7, 10 à 16, je referme la parenthèse. La deuxième remarque concernant la rencontre, c'est le jeu sentimental. Si vous voulez souffrir ou faire souffrir, alors je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas faire, hein. Mais si vous voulez souffrir ou faire souffrir, engagez-vous dans le flirt. C'est un sport national qui consiste à faire des conquêtes pour se prouver ses capacités séductrices et vibrer dans une émotion certes agréable, mais éphémère. Dans le peu de temps que j'ai, je ne peux que vous encourager à ne pas jouer avec votre cœur et celui des autres. On ne commence pas à fréquenter avec une personne inconnue. On ne fréquente pas sans penser au mariage. Et vous savez, il y a une foule de possibilités d'apprendre à se connaître autrement qu'en faisant des conquêtes. Vous savez, le cœur est un lieu trop sensible et important pour en donner des morceaux à gauche, à droite. Gardez-le pour votre conjoint. Le cœur est un lieu trop sensible et important pour en donner des morceaux à gauche, à droite. Gardez-le pour votre conjoint comme Christ a gardé son cœur pour son Église. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La troisième remarque est en lien avec plusieurs questions qui me sont parvenues. Donc pour le célibat, j'avais un groupe célibataire qui m'avait posé plein de questions. Et puis là, ben, je donne quelques réponses par rapport à ça. Chercher oui, mais où ? C'était une des questions qu'il y avait. Bon. Le lieu de rencontre. Afin de faire court, mais clair, je vais vous laisser trois questions qui nous indiqueront trois endroits. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un qui est en Christ ? Ça, c'est une première question. Est-ce que je veux rencontrer quelqu'un qui est en Christ ? Si vous répondez négativement à cette question, vous n'avez plus besoin d'écouter les suivantes. Mais sachez que vous ne cherchez pas le cadre relationnel défini par Dieu. C'est un choix. Voici donc les deux questions suivantes qui définiront si le lieu réel ou virtuel est à éviter ou à privilégier. Est-ce qu'en allant dans ce lieu, cela m'éloigne de Christ ? Ou me pousse à m'éloigner de ses principes ? Est-ce qu'en allant dans ce lieu, cela m'éloigne de Christ ou me pousse à m'éloigner de ses principes ? C'est un lieu à éviter. Et la troisième question, est-ce qu'en allant dans ce lieu, cela me rapproche de Christ et me motive de vivre ce qu'il enseigne ? Est-ce qu'en allant dans ce lieu, cela me rapproche de Christ et me motive à vivre ce qu'il enseigne ? Si c'est le cas, c'est un lieu à privilégier. Alors attention, je ne dis pas qu'à chaque endroit qu'on va, c'est je suis tout feu, tout flamme pour le Seigneur, ou bien je suis complètement mis en bas, etc. On a un petit peu des pensées des fois caricaturales. Donc ça peut être assez neutre, mais on doit se dire, est-ce que ça m'éloigne de Christ ? Non ? Ok. Oui ? Ah, ben là je dois réfléchir. Et pour les autres lieux, justement, c'est la liberté chrétienne qui est à appliquer en continuant d'avoir toutes ces questions avec nous. Est-ce que ce lieu m'éloigne de Christ ? Est-ce que ce lieu me rapproche de Christ ? Il y a plein d'endroits, c'est la liberté chrétienne, puis chacun aussi a ses sensibilités. Pourquoi ? Parce que si un jour j'entre dans une relation, je veux la vivre dans le cadre relationnel dans lequel Dieu m'invite, dans le Seigneur. C'est pour ça que je me pose ces questions. Et avant de quitter ce point à l'ouverture de la rencontre, j'aimerais faire encore quelques remarques qui me semblent utiles. Ça, c'est des célibataires qui m'ont poussé aussi à le faire. Écoutez bien, les gens mariés ici parmi nous ou plus âgés, écoutez bien ceci. Tous les célibataires ne cherchent pas à rencontrer quelqu'un et ce n'a rien d'anormal. Ok ? Tous les célibataires ne cherchent pas à rencontrer quelqu'un et ça n'a rien d'anormal. Que les autres ne cherchent donc pas à marier tous les célibataires qu'ils trouvent. Ils ont leur place dans l'œuvre de Dieu. Mais j'encourage aussi les célibataires à ne pas se fermer, à dire jamais, même si vous pensez que vous resterez célibataire jusqu'à la fin de votre vie et que vous l'acceptez avec joie. Ce n'est pas que je veux que vous entreteniez un espoir illusoire, mais plutôt que vous cherchiez plus à vivre au service de Dieu que comme célibataire. Ce n'est pas votre identité de célibat, c'est votre statut matrimonial. Bien des célibataires, malheureusement, s'enferment dans leur tristesse et font le vide autour d'eux. Et voici quelques conseils qui ne sont pas des recettes, mais des bienfaits qu'une rencontre arrive ou non. Le célibataire épanoui qui accepte sa situation est de loin plus désirable que quelqu'un d'autre, car il indique ainsi qu'il accepte sa situation et qu'il est même prêt d'accepter une nouvelle situation si elle devait changer. Le célibataire consacré à Dieu continuera à l'être quand il se marie, même si ça sera d'une manière différente. Celui qui ne se consacre pas à Dieu avant le mariage le fera encore moins après. Le célibataire qui est prêt à accepter sa situation dans la durée est aussi prêt à accepter une relation dans la durée. Vous vous souvenez ? Tout dans la vie chrétienne découle de Christ. Donc si vous vivez Christ en tant que célibataire, vous continuerez à le faire si vous faites alliance avec quelqu'un pour la vie qui est aussi en Christ. Bien entendu que le célibat amène à des défis particuliers en lien avec la solitude, l'impureté, le mécontentement. Mais cela, nous en parlerons la prochaine fois, pour la dernière prédication qui sera intitulée « Le célibat avec des défis de vie ». En conclusion, pour aujourd'hui, nous avons réfléchi au célibat avec des fondements de vie. Rappelons-nous que le sens de la vie n'est pas dans notre état matrimonial, mais en Christ. Le royaume pour lequel nous vivons va nous donner la joie d'y mettre les avantages du célibat à son service, de ce royaume, et trouver le soutien dans ce royaume pour ses désavantages. Quelle joie de faire partie du royaume du meilleur roi qui existe. Et l'évangile amène l'ouverture à la relation dans le cadre relationnel et la bonne manière de gérer les sentiments et le lieu des rencontres adéquats que Dieu nous indique. Alors si la situation matrimoniale est une part importante de ce qui influence notre façon de vivre, l'essentiel n'est pas là, mais dans la relation avec Dieu. Alors j'aimerais vous laisser avec trois questions. Après je prie, c'est fini pour la prédication. Première question, as-tu trouvé le sens de la vie en celui seul qui peut la donner de manière satisfaisante ? As-tu trouvé ce sens de la vie ? Deuxième question, on l'a déjà eue mais je la répète, pour quel royaume vis-tu ? Et là je ne parle pas de la théorie, hein, je parle de ce que vous faites en vrai, dans la réalité. Et puis troisièmement, es-tu réconcilié avec ton Créateur de manière verticale et ainsi paisible dans toutes tes relations horizontales en Christ ? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces paroles juste merveilleuses que nous avons dans cette écriture qui nous est parvenue, qui est ta révélation. J'aimerais te prier que ce texte de Colossiens 2:10 puisse résonner dans nos cœurs très longtemps encore. Nous avons tout pleinement en Christ. Rien ne manque. Rien. Et j'aimerais te prier, Seigneur, que ce ne soit pas juste une théorie, qu'on ne dise pas juste « oui, c'est vrai ». Et puis ensuite, on a plein de choses dans nos vies, on se dit oh, « on aimerait ceci, il nous manque ceci ». Non, Seigneur, je te prie vraiment de nous donner d'entrer dans cette compréhension de ce que signifie d'avoir tout pleinement Christ. Et c'est vrai, j'en suis témoin. J'aimerais, Seigneur, te dire merci parce que tu es ce Dieu qui nous fait entrer dans un royaume extraordinaire. Un royaume qui nous permet de vivre avec ceux qui sont autour de nous, sans nous battre entre notre royaume et le leur. Non, on est dans le même. Donne-nous la grâce, Seigneur, dans ce royaume, avec nos frères et sœurs en Christ, de construire. J'aimerais, Seigneur, te prier aussi de nous donner la grâce de ne pas nous focaliser, de trouver une personne ou de rester seul, mais de nous focaliser sur toi. Et ainsi avoir des bonnes attitudes, des bonnes habitudes et des désirs qui soient remplis d'une joie d'être à ton service, de t'aimer, de te mettre en premier dans nos décisions, dans nos discussions, dans nos pensées. Garde-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi et nous te disons merci parce que tu nous combles. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.